RJB Info, le journal Natacha Mengoli, bonsoir.
Bonsoir, les trombes d'eau mettent les petites chauves-souris en danger. De nombreux jeunes spécimens ont été retrouvés au sol, malnutris en raison des précipitations. Autre animal fortement impacté par les inondations, le castor, dossier dans un instant. À l'étranger, une explosion a fait trembler la ville allemande de Leverkusen. Un mort, 4 disparus, 16 blessés. C'est le premier bilan de la catastrophe survenue ce matin sur un site de traitement de déchets. La population a dû se calfeutrer par crainte de vapeurs nocives. Ce 27 juillet restera marqué dans les annales du sport helvétique. Les vététistes ont réalisé un triplé historique dans le cross-country féminin ce matin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le dernier triplé suisse aux JO remonte à 1936. On revient sur cet exploit dans notre journal des Jeux tout à l'heure. Météo, des averses orageuses sont possibles la nuit prochaine. Demain, la journée démarrera sous les nuages et encore quelques gouttes avant une amélioration dès la mi-journée. Ambiance assez lourde toutefois avec des maxima compris entre 21 et 24 degrés. Les petites chauves-souris souffrent de la météo. Les précipitations de ces dernières semaines ont empêché les mères de chasser des insectes et peinent à nourrir leurs petits. De nombreux jeunes ont été retrouvés au sol. La problématique est large et touche également le zoo du Bois du Petit Château à La Chaux-de-Fonds. L'institution a reçu de nombreux jeunes en besoin de soins. Elle en accueille une dizaine en ce moment, alors qu'il y en a habituellement trois fois moins. Mais la situation est sous contrôle, selon Yasmine Ponam-Palam, responsable du zoo et de la station de soins du Bois du Petit Château. On l'écoute.
On a l'habitude d'avoir énormément de juvéniles en simultané pendant ces mois de l'année. C'est vrai que les bébés chauves-souris sont assez contraignantes parce qu'elles doivent être nourries toutes les heures pour les plus petits individus, donc celles qui ont les yeux fermés. Elles doivent être maintenues à une certaine température, elles doivent être toilettées, elles doivent être conservées à un taux d'hydratation suffisant. Donc oui, et puis elles sont très très petites, hein. Une petite pipistrelle, ça peut mesurer la taille d'un ongle de doigt. Donc c'est très minutieux comme travail.
Mais vous vous en sortez, vous avez les forces nécessaires pour vous en occuper, vous n'êtes pas encore surchargé ou débordé?
Non, on a toujours les forces nécessaires pour la station de soins. On a une très bonne équipe de soigneurs et de bénévoles aussi. Donc on a toujours le nombre suffisant de personnes. C'est clair que on est un peu en flux tendu, mais on peut toujours accueillir des individus.
Et les bébés chauves-souris ne sont pas les seuls à payer un lourd tribut après les inondations. Habitants de nos rivières et des berges, des lacs, les castors ont eux aussi souffert de la montée des eaux. Certaines huttes du bord du lac ont été inondées. On fait le point avec Joanne Félix, collaboratrice scientifique au service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel.
Théoriquement, ils peuvent avoir un impact plutôt positif, dans le sens que s'ils font un barrage, le barrage va retenir l'eau et l'inondation à l'aval va se produire avec un délai. Donc le barrage peut faire une sorte d'effet de réservoir tampon, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a observé pour l'instant dans le canton.
Est-ce qu'il y a un souci au niveau des crues, peut-être des barrages qui seraient emportés, qui aggraveraient une situation de crue?
Alors, on n'a pas systématiquement la création d'un barrage. Il y a aussi des cas où le castor construit un terrier ou une hutte sans la présence du barrage. L'objectif du barrage, c'est en fait élever le niveau d'eau pour que l'entrée de son terrier ou de sa hutte soit sous le niveau de l'eau. Après, il faut savoir que aussi bien les barrages que les huttes, ce sont des éléments qui sont construits. Donc, les morceaux de bois ne sont pas simplement posés les uns sur les autres. Ils sont quand même enchevêtrés. Ils résistent quand même à une certaine pression de l'eau. Et comme là, on a pu observer dernièrement une inondation plutôt lente et une progression des débits aussi progressive, on n'a pas forcément de raison de penser que ces barrages ou huttes ont été emportés.
Des propos recueillis par Léo Tichelli. Plus de détails à ce sujet sur notre site rjb.ch. Un frigo d'un nouveau genre s'est installé au début du printemps à La Neuville. 724 New Food cherche à se démarquer dans le marché des distributeurs automatiques. Dans un monde où les horaires des magasins ne sont pas toujours idéaux avec nos rythmes de vie, 724 New Food tente d'offrir une solution. Un magasin automatisé, accessible donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alice Rossier, chef de projet pour le prototype de magasin automatisé de la société 724, explique comment est né ce projet.
C'était une option qui n'était pas disponible en Suisse. C'est vrai qu'on a un peu de retard par rapport à certains autres pays qui sont plus automatisés que nous. Et c'est vrai que la healthy food, les choix sont un petit peu limités en dehors des heures d'ouverture des grands distributeurs. Ça correspond moins aux besoins de la population qui, par exemple, peut sans autre terminer une séance de sport à 20 ou 21h, chercher un snack sain. À cette heure-ci, c'est un peu compliqué en Suisse encore. Le besoin des gens, il a un petit peu évolué. Nous, on n'a pas trouvé cette solution en tant que consommateur et on a essayé de la proposer en tant qu'entreprise.
Pourquoi l'avoir installée à La Neuville ? Parce que vous êtes basé normalement dans le Gros de Vaud.
C'était vraiment une opportunité. On a en Suisse quelques lenteurs administratives, notamment au niveau des permis de construire et autres. À La Neuville, on avait cette opportunité un petit peu plus simple pour nous. Et comme de toute façon, on envisage de s'implanter dans toute la Romandie, autant commencer ici.
Ça fait plus de 2 mois que vous êtes là, bientôt 4. Comment les gens réagissent justement à ce frigo ?
Alors c'est assez rigolo parce qu'on a des caméras, donc on peut regarder un petit peu les curieux du dimanche qui viennent juste regarder sur l'écran ce qui est disponible. Les gens plutôt le soir qui viennent s'approvisionner, par exemple notamment en avocat pour faire du guacamole ou bien une boisson, un petit snack avant de rentrer chez eux.
Des propos recueillis par Clotilde Loup, l'autre devise de cette 24 est de collaborer avec les producteurs et artisans de la région où ils s'installent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet. Vous vous réjouissez de goûter le plat du jour du restaurant du coin de la rue. Et bien surprise en arrivant devant l'établissement, celui-ci est fermé pour cause de vacances. De quoi interpeller alors que ces mêmes établissements publics sont restés fermés durant de longs mois en raison de la crise sanitaire. Pourtant, ces fermetures ne surprennent pas la coprésidente de Gastro Neuchâtel, Laurence Veilla.
Quand on a une petite structure, petite équipe, ben, on n'a pas le choix. Et puis si on a l'établissement depuis quelques années, on sait un peu à quel moment il faut fermer parce que c'est la période creuse. Donc oui, c'est des choix qu'on peut ne pas comprendre. J'imagine bien que quelqu'un qui passe devant, qui se dit il était fermé 6 mois et puis il a quand même pris des vacances. Mais ce qu'on doit, on doit. Et puis c'est notre responsabilité en tant que gérant ou propriétaire de suivre ses affaires correctement et puis de donner ce que les gens ont droit.
Et Laurence Veilla qui constate par ailleurs que contrairement à l'an passé, les touristes suisses sont bien moins nombreux dans la région. À l'étranger, l'ouest de l'Allemagne est sous le choc après une explosion survenue ce matin sur un site de traitement de déchets à Leverkusen. La population a dû se calfeutrer par crainte de vapeurs nocives. Sur les lieux du drame, un mort est à déplorer pour l'instant. Olivier Zano.
Rester à l'intérieur, couper les climatisations, fermer les fenêtres et les portes, c'est le message bombardé ce matin par les autorités de Leverkusen. Des portions d'autoroute ont aussi été fermées. L'explosion survenue vers 10h-20 a été classée immédiatement dans la catégorie danger extrême. C'est que le bâtiment est situé en bordure de Schempark, un parc industriel dédié à la chimie parmi les plus importants en Europe. Heureusement, en début d'après-midi, les mesures des niveaux de pollution dans l'air étaient encore toutes dans le vert. Pas de danger pour Leverkusen ni pour la métropole toute proche de Cologne et son million d'habitants selon les pompiers. Même si aucun risque ne sera pris, les mesures de sécurité restent en vigueur. Il faut rester à l'intérieur, rincer les légumes qui viennent du potager et annoncer tout dépôt de suie ou de résidus qui pourraient tomber du ciel. Des analyses sont d'ailleurs en cours dans le but d'identifier la composition de l'épais nuage provoqué par l'explosion. Une explosion dont l'origine est inconnue pour l'heure. Le bilan provisoire, lui, est d'un mort, 4 disparus et 16 blessés, dont 2 grièvement.
Merci beaucoup Olivier pour ces précisions.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h09.
Sport. Une nouvelle recrue pour le HC Bienne. Robin Grossmann rejoint les rangs biennois en provenance du Lausanne HC avec effet immédiat. Le club l'a annoncé cet après-midi dans un communiqué. Le hockeyeur de 33 ans a paraffé un contrat de 3 ans avec la formation biennoise de National League. Robin Grossmann avait déjà porté le chandail biennois pour quelques matchs dans l'ancien championnat de Ligue Nationale B. C'était entre 2006 et 2008.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Et c'était un mardi dont le sport helvétique se souviendra bien longtemps. Pour la troisième fois de l'histoire, la Suisse a fêté un triplé au JO. Après les gymnastes en 1924 et en 1936, ce sont les vététistes féminines qui ont réalisé cet exploit aujourd'hui à Tokyo. À 28 ans, Yolanda Neff est devenue championne olympique. La Saint-Galloise a devancé la Zurichoise Sina Frey et l'Uranaise Linda Indergand. La Saint-Galloise a tiré son épingle du jeu sur un terrain très technique, rendu encore glissant par la pluie. Elle ne s'attendait pas à se retrouver à ce niveau-là, elle qui s'était cassée la main il y a un peu plus d'un mois et qui s'était très gravement blessée il y a une année et demie. Yolanda Neff.
Ja, es ist mega cool. Also, es ist viel weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe.
Oui, c'est mega cool. C'est mieux allé que ce que je pensais. Je savais que la course serait très dure, le parcours extrêmement brutal et c'est vraiment bien allé. J'ai pu contrôler tout le temps. Je me suis efforcée de bien gérer le rythme de la course. Il fallait prendre de l'élan dans les descentes pour bien enchaîner. Tout cela s'est bien déroulé. J'ai pu trouver un très bon rythme. J'espère maintenant que je ne vais pas me réveiller et réaliser que c'est un rêve.
Ja, das ganze Rennen können wirklich einen schönen Rhythmus fahren und es ist ja, ich hoffe, ich mache jetzt einfach nicht auf, das ist alles nur ein Traum.
Des propos traduits par notre envoyée spéciale à Tokyo, Emily Mumenthaler. La joie était bien évidemment aussi de mise chez les deux poursuivantes de Yolanda Neff, à commencer par la Zurichoise Sina Frey.
C'est indescriptible. Pour ma première participation au jeu, je gagne l'argent. C'est incroyable. Ça l'est d'autant plus que deux autres Suissesses m'ont accompagnée sur le podium. Ça a été un moment pour l'histoire. Je suis super heureuse et je n'arrive pas encore à réaliser vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui.
Des propos traduits par Claire Viget. Et le succès de Yolanda Neff a trouvé son écho aussi dans la région. La jurassienne Chantal Doucourt avait terminé 11e des JO à Sydney en 2000 en VTT. Elle avait également remporté 3 titres européens durant sa carrière. Ce matin, elle a réagi avec émotion à la razzia des Helvètes qui récompense, selon Chantal Doucourt, un travail de longue haleine.
On a toujours été une nation forte depuis le début avec des champions et championnes du monde depuis les années 90. Et je pense que voilà, on a peut-être un terrain propice aussi, mais il y a effectivement toute une histoire et la chance d'avoir eu des très très bons entraîneurs, beaucoup d'écoles de vélo en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse romande. Et voilà, ça fait des émules et on a la chance maintenant d'avoir ces 3 femmes qui font une médaille et qui vont, j'espère, faire d'autres émules chez les femmes en particulier, mais chez les hommes aussi.
Vous évoquez hein, certaines raisons qui mènent le VTT en particulier, hein, aujourd'hui helvétique au sommet. Il y a une vraie culture de ce sport aujourd'hui qui est appelée à perdurer d'après vous ?
Je pense qu'il y a vraiment cette culture du VTT depuis 30 ans. Et Swiss Cycling est derrière ses athlètes et puis il y a une grande émulation et je pense qu'effectivement c'est le cas, oui.
Chantal Doucourt répondait à Michel Léoni. Vous retrouvez un dossier complet sur cet exploit sur notre site internet. Et toujours à Tokyo, mais en tennis, cette fois Belinda Bencic convoite toujours 2 médailles. La joueuse de tennis saint-galloise s'est même sérieusement rapprochée des breloques, puisqu'elle s'est qualifiée pour les quarts de finale du simple et du double aujourd'hui. Associée à Victoria Golubic, Belinda Bencic a passé le deuxième tour du double après avoir disposé de la paire espagnole Muguruza Suarez Navarro 3-6, 6-1. 11-9. En simple, Belinda Bencic a éliminé la Tchèque Barbora Krejčíková sur le score de 6-1, 6-2, 6-3. Les nageurs suisses ont également réalisé une performance de choix. Ils se sont qualifiés pour la finale du relais 4 x 200 mètres large nage libre masculin. Ils ont signé le 6e temps des séries en explosant de plus de 4 secondes le record de Suisse. En gymnastique, l'américaine Simone Biles est incertaine pour la suite des Jeux. Elle s'est retirée du concours par équipe féminine aujourd'hui après la première rotation et ce pour raison médicale. Ce retrait a profité aux gymnastes russes qui ont glané l'or par équipe aux dépens des États-Unis. Et un moment pour l'histoire du sport a été écrit aujourd'hui. Les tout premiers champions olympiques de surf ont été désignés. C'est le Brésilien Italo Ferreira qui l'a emporté chez les hommes et l'Américaine Carissa Moore chez les dames. On revient sur deux roues où la Suisse aspire à une nouvelle médaille. Stefan Küng vise un podium demain lors du contre-la-montre. Le Turgovien s'élancera parmi les derniers coureurs et fera partie des favoris. Mais il faudra être fort pour résister au parcours exigeant au pied du Mont Fuji et surtout à la chaleur. Stefan Küng.
C'est un parcours très très demandant parce que soit ça monte, soit ça descend. Il y a, je crois, le plus long bout de plat, c'est la ligne d'arrivée. Elle fait peut-être, je crois, 700, 800 mètres. Les descentes sont très très rapides parce que le survêtement routier il est parfait et aussi t'as pas vraiment besoin de freiner. Donc ça va être très rapide. Donc soit tu es vraiment occupé par l'effort ou soit tu dois vraiment être concentré. Donc en plus avec la chaleur, ça va être un facteur pas négligeable.
Stefan Küng s'élancera donc demain à 9h07 précise hors Suisse pour ce contre-la-montre olympique. Merci pour votre fidélité. L'information continue en tout temps sur notre site rjb.ch mais aussi via notre application mobile. Excellente soirée.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Excellente soirée à vous également Natacha Mengoli. On prend des nouvelles du ciel avant de se dire au revoir. Et pour ce soir, nous devrions profiter d'un temps plutôt dégagé et sec, mais c'est en seconde partie de nuit que l'ambiance va changer. Des cumulus devraient se rassembler et laisser éclater quelques averses orageuses. Demain, nous nous réveillerons sous les nuages, en tout cas en début de journée, quelques averses possibles, puis les éclaircies devraient s'installer gentiment, mais sûrement. Dans l'après-midi, nous profiterons du soleil et d'un temps sec, mais des rares ondées sont possibles, ça va surtout concerner les hauteurs. Côté température, elles seront douces, mais lourdes, d'après Météo News, qui annonce entre 14 et 17 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre 21 degrés dans les vallons du Jura bernois, 23 degrés à Moutiers, maximum 24 degrés autour du lac de Bienne. C'est jeudi que nous pourrons profiter de conditions estivales. Il faudra clairement en profiter car dès le week-end, on repart à la baisse et a priori, pas d'amélioration en vue.